Europe 1. C'est arrivé cette semaine, se poursuit avec vous Patrick Cohen.
Le 14 septembre, sur le plateau d'On n'est pas couché, Ségolène Royal, ambassadrice chargée des pôles, vantait ses interventions au Conseil de l'Arctique.
Qu'est-ce que je dis au nom de la France dans ces instances, et notamment dans ce qu'on appelle le Conseil de l'Arctique, c'est de tirer l'attention sur les conséquences du dérèglement climatique.
Deux mois plus tard, sur France Inter, elle justifiait de n'y mettre jamais les pieds.
Je ne vais pas aux réunions où la France n'a pas la parole. Et j'ai décidé de ne pas aller aux trois réunions sur deux ans du Conseil de l'Arctique, ce qui ne veut pas dire que je ne travaille pas sur l'Arctique. Au contraire, on n'a jamais entendu autant parler des pôles.
Ah, ça c'est vrai, et c'est peut-être la seule chose vraie. Grâce aux fonctions ou aux dysfonctions de Madame l'ambassadrice, on n'en a jamais autant parlé. Mais qu'est-ce qui se joue là-bas? Bonjour Mico Mérède.
Bonjour Patrick Cohen.
Professeur de géopolitique des pôles à l'Institut libre d'études des relations internationales. Voilà 10 ans que vous y consacrez. Vous venez de publier au PUF une somme sur ce sujet, les mondes polaires. Expliquez-nous d'abord simplement pourquoi l'Arctique c'est stratégique.
L'Arctique est stratégique pour des raisons pas juste climatiques. On sait que l'Arctique c'est la région du monde qui fond le plus vite, en tout cas qui se réchauffe le plus vite, 4 fois plus vite que le reste de la planète. Mais au-delà de ça, en Arctique, il y a des intérêts faramineux, bien sûr, sur la question des ressources, pétrole, gaz, bois, pêche, etc. Mais aussi, évidemment, des jeux militaires qui se mettent en place.
À cause du réchauffement, le climat y est de moins en moins hostile. C'est donc une zone qu'on peut plus facilement traverser en bateau, prospecter pour ces minerais et peupler.
Tout à fait. Dans mon livre, j'appelle même certaines zones de l'Arctique des zones déjà post-polaires. En réalité, bon, moi, enfin, je fais partie d'une génération, les millennials, comme on l'a dit, qui allons vivre dans un monde où l'Arctique ne sera plus cette image d'épinal, cette zone froide, cette zone où il n'y a que ce désert froid avec des ours polaires. Non, non. Et l'Arctique va être autre chose.
Et donc une terre de conquête, un objet de convoitise pour les Russes, les Chinois, les Américains, les Canadiens.
Et les Européens,
et
bien
les
sûr.
Européens. Alors donc, dans ce jeu mondial, quelle peut être la place de la France? Et ce Conseil de l'Arctique, il est central, il est stratégique ou bien il ne vaut pas le voyage?
Alors, le Conseil de l'Arctique, bien sûr, qui vaut le voyage. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nombre d'homologues de notre ambassadrice se rendent au Conseil de l'Arctique. Et d'ailleurs, on l'a encore vu cette semaine où il y avait une réunion du Conseil de l'Arctique, évidemment, en Islande.
Y compris pour les pays observateurs.
Mais surtout pour les pays observateurs. C'est-à-dire que pour les pays observateurs, si vous n'êtes pas présent au Conseil de l'Arctique, vous n'avez plus de légitimité politique. Mais au-delà du politique, il y a aussi l'économique, l'industriel qui vient derrière. Donc il faut être présent au Conseil de l'Arctique. Et d'ailleurs, plus on est assidu, plus on est impliqué, plus tout simplement les pays de l'Arctique nous donnent, nous ouvrent la porte. Et d'ailleurs, il y a des homologues observateurs de Madame Royal qui prennent la parole au Conseil de l'Arctique.
Ah bon, Ségolène Royal dit que la France n'y a pas la parole, non?
Alors, encore une fois, c'est une question diplomatique. Plus on est assidu, plus on contribue, plus on peut potentiellement avoir la parole, comme d'ailleurs l'ambassadeur arctique polonais qui s'est exprimé tout à fait naturellement au Conseil de l'Arctique cette semaine. Mais Michel Rocard lui-même à l'époque avait pu non seulement intervenir devant le Conseil de l'Arctique, mais c'est même grâce à lui, avec les Polonais, que les observateurs ont pu même obtenir des temps de parole dédiés.
On a une prime de fidélité en quelque sorte.
Bien sûr.
Et quand l'ambassadrice n'y va pas, la France est quand même représentée, donc ?
Elle est quand même représentée, mais pas forcément par les ambassadeurs dans les pays locaux. Elle est représentée principalement par la sous-direction juridique dédiée aux droits de la mer, droits des fleuves et droits des pôles, qui est basée à Paris et qui envoie donc un expert sur ces questions-là à chaque fois. Donc, les questions du bilan carbone, par exemple, ne se posent, évidemment.
Il vient en avion depuis Paris, donc c'est ça, donc le bilan carbone est le même.
Oui.
Vous relevez aussi dans votre livre une expression utilisée 2 fois par Ségolène Royal, l'Arctique est un immense Far West. Pourquoi dites-vous qu'elle a tort de dire ça?
Alors, c'est pas la seule à dire ça, mais c'est pas non plus une majorité, évidemment, de dire ça, parce que c'est faux, tout simplement. C'est-à-dire que cette logique de Far West implique, ou en tout cas sous-entend, que l'Arctique serait dérégulé. Or, l'Arctique est parfaitement une zone du monde avec des régulations importantes. Il y a plus d'une vingtaine de traités différents qui gèrent les questions économiques, stratégiques ou des questions de développement en Arctique. Et au-delà de ça, il y a 8 pays, tout simplement, qui ont des territoires terrestres et maritimes et qui ont des législations nationales. D'ailleurs, c'est ce qu'ont répondu 2 ministres norvégiens depuis le mois de septembre, et principalement à l'attention de la France, il faut le dire, en disant tout simplement « l'Arctique n'est pas dérégulé, ce n'est pas un Far West ». Donc si les Norvégiens le disent, c'est peut-être qu'ils ont raison.
Donc la France devrait, selon vous, y participer plus activement sur les activités de l'ambassadrice. Je vous renvoie aux enquêtes du Point et de Radio France, Géraldine Vossner et Sylvain Tronchet. Sur l'Arctique et sur le sujet de fond, c'est la Russie aujourd'hui qui est la plus active dans cette bataille et dans cette conquête.
Très clairement. très clairement, d'un point de vue stratégique, la Russie a le plus d'actifs, le plus de capacités, le plus de brise-glace. Très clairement, si on prend juste un petit résumé, la Russie aujourd'hui, ou en tout cas dans 20 ans, aura une centaine de brise-glace à sa disposition, privée comme publique, ce qui est deux fois plus que le reste du monde compris, combiné.
Et une centrale nucléaire flottante.
Alors, une centrale nucléaire flottante qui est, ça me fait rire parfois de dire ça, mais c'est de l'économie circulaire quelque part, puisque c'est un ancien brise-glace de l'ère soviétique qui ne pouvait plus naviguer, qu'ils ont justement recyclé en centrale nucléaire flottante. Non, ce qui est intéressant, en fait, c'est que la Russie est évidemment la puissance dominante, aussi bien d'un point de vue économique que stratégique, mais pour autant, tous les États de la région, et avec l'appui de financeurs, d'investisseurs, évidemment de pays qu'on peut appeler observateurs, principalement les pays du Nord-Est asiatique, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, mais aussi les pays européens, sont en voie de développement assez rapide.
Sur l'Arctique et l'Antarctique, le manuel de référence, les mondes polaires au puf. Merci beaucoup, Mikko Mered.
Merci
de nous avoir éclairés.